Le journal Nazaire Coco.
Une centaine d'officiers congolais ont reçu aujourd'hui des brevets à l'issue d'une formation de cette semaine au Centre supérieur militaire de Kinshasa. Cette formation a été assurée par des experts américains. Deux personnes ont été tuées par balle cette nuit à Goma. Ce double crime a été commis à l'aéroport de Goma et à Keshero. La population de Keshero pointe du doigt les militaires de la police militaire postée dans le quartier. Inquiétude des responsables de santé à l'Équateur. 15 nouveaux cas enregistrés chez les enfants au cours des 6 derniers mois. Il s'agit des cas de poliovirus sauvage. C'est ce qu'indique l'inspection provinciale de santé. La mobilisation est totale pour réussir la prochaine campagne de vaccination du 2 au 4 août prochain. Mesdames et messieurs, bonjour. Une centaine d'officiers congolais viennent de recevoir des brevets à l'issue d'une formation de cette semaine reçue au Centre supérieur militaire de Kinshasa. La formation a été assurée par des experts militaires américains. Elle consistait essentiellement à l'encadrement des troupes depuis le Centre supérieur militaire de Kinshasa. Nous rejoignons Adia Chipoukoumessol.
Au total, 105 officiers ont reçu leur diplôme des mains du vice-ministre de la Défense, Julien Paluku, et de l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Roger Mitz. Parmi eux, 9 officiers venus de Ituri qui avaient accepté le brassage. C'est justement leur présence qui a démontré, selon Julien Paluku, l'importance de cette formation. Elle a consisté en effet à leur apprendre le système des opérations sur terrain, c'est-à-dire le renseignement, la manœuvre, la mobilité, ainsi que des exercices pratiques. Ainsi donc, chaque officier, tant celui de transmission que de génie ou un autre, a appris à s'assurer que sa zone d'opération est intégrée dans le plan général de sa brigade. La cérémonie de remise de diplôme de cet avant-midi a aussi été une occasion pour le vice-ministre de la Défense d'assurer aux lauréats que le gouvernement, avec le concours des différents partenaires, compte les appuyer. Il a donc parlé de la réhabilitation des infrastructures du centre supérieur des officiers, Binza Ozone. Il sera donc rétapé. Signalons enfin que des prix ont été remis aux lauréats et le ministre Julien Paluku a aussi annoncé qu'une nouvelle session va commencer en septembre de l'année en cours. De son côté, l'ambassadeur des États-Unis a rassuré de la poursuite du partenariat militaire des États-Unis avec la RDC. Depuis le centre supérieur des militaires à Binza Ozone, pour Radio Capi.
5 blessés de guerre venus des hauts plateaux d'Ouvira sont internés depuis mercredi dans un hôpital d'Ouvira. Ils ont participé lundi dans les hauts plateaux du sud qui vouent aux affrontements opposant les forces armées de la République démocratique du Congo aux insurgés réfractaires au brassage. Ces derniers sont commandés par Michel Rukunda et le colonel Bissogo. Aucun bilan n'est disponible pour le moment au niveau de la 10e région militaire, mais les blessés ont signalé que des maisons ont été brûlées dans les villages de Bitinga et que plusieurs ménages fuyant des combats se déplacent des localités de Katabona, Ouvira et de Katanga, toujours dans les hauts plateaux de la chaîne des Mitumba. Récit des faits, Fiston Goma.
4 blessés ont été atteints par balle. Le 5e est tombé de la colline sur une pierre lorsqu'il venait en renfort. Selon les sources hospitalières, 2 blessés sont en état grave. Ces blessés ont déclaré que le FRDC a repoussé les groupes d'insurgés commandés par le colonel Bissogo dans certaines localités des hauts plateaux d'Ouvira. Mercredi, les combats se poursuivaient encore aux environs de la base arrière des insurgés à Muramvia. Témoignage d'un blessé.
Ils
sont venus m'attaquer vers 19h30, je me suis retiré dans la brousse jusque le matin. Et quand le renfort est arrivé, nous sommes allés aussi les attaquer au niveau du marché de Rouhoura. Nous les avons repoussés de là jusque dans leur localité où ils sont allés se cacher parmi les civils dans des maisons. C'est en les délogeant de là que les nôtres ont reçu des balles. C'est ainsi que nous les avons repoussés jusqu'au village de Gongwa. Nos compagnons continuent de les pourchasser. Jusque mercredi, nous en entendions encore les cris des bombes, notre front le plus avancé se trouverait vers
Muramvia.
Rappelons que ces combats ont été déclenchés lundi sur 2 fronts, à Makutano dans les hauts plateaux de Minembwe et l'autre front dans la localité de Rouwa au plateau d'Ouvira. Contacté, le commandant de la 10e région militaire ne fournit pour l'instant aucun bilan sur ces combats. D'Ouvira, Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
À Goma, deux personnes ont été tuées par balle. Cette nuit, l'une, un présumé voleur, a été abattu dans les installations de l'aéroport. L'autre, un habitant du quartier Keshero, abattu par des hommes en armes alors qu'il rentrait chez lui. La population de Keshero pointe du doigt des militaires de la police militaire postée dans le quartier. Du coup, le commandant PEM vient d'ordonner le démantèlement de cette unité dans le quartier. Depuis Goma, Sylvestre Kilolo.
Au quartier Keshero, la victime a été abattue vers 19h locale, non loin de la faculté des droits de l'Université libre des pays des Grands Lacs, ULPGL. Il retournait chez lui à la tombée de la nuit. La population de ces quartiers soupçonne des éléments des PM dont l'unité est installée dans ces quartiers d'avoir commis ces forfaits. Pour les commandants du bataillon PM en charge de la sécurité de Goma, les deux éléments soupçonnés viennent d'être arrêtés et seront transmis à la justice. Ces mêmes responsables ajoutent que suite aux multiples plaintes de la population, l'unité PM est placée dans ces quartiers sera redéployé ailleurs. Pendant ces temps, à l'aéroport de Goma, la famille d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, abattu la nuit dans les installations de la RVA, cherche à récupérer son corps en vue de l'enterrement. Selon le major Makambo de la force aérienne, il s'agit d'un voleur faisant partie d'un groupe de trois hommes qui tentait de forcer un conteneur de matériel de maintenance de la RVA. N'ayant pas obtempéré à la sommation des militaires, ils ont essuyé des tirs et l'un d'entre eux atteint par balle.
Trois semaines après le verdict rendu sur le procès de Kiloa, les avocats des victimes se disent inquiets de la suite du dossier. Les victimes, on se souvient, ont interjeté appel au niveau de la haute cour militaire. Cependant, le dossier n'a jamais été transmis à la haute cour. On écoute Maître Georges Kapiamba, l'avocat de la partie civile. Il est joint au téléphone par Denise Maéo.
Il n'était pas question que les greffes de la cour militaire de Katanga puissent traîner, mais nous avons posé la question auprès des responsables du dit greffe qui nous ont fait savoir que, apparemment, ce n'est pas de leur faute parce que la décision qui a été prononcée, qui doit être aussi dans le dossier, est toujours entre les mains du premier président de la cour.
Est-ce que cela n'aura pas un impact négatif sur la suite de ce dossier?
Oui, ça nous inquiète beaucoup. Nous craignons que ça puisse se répercuter négativement sur la protection des preuves déjà recueillies et ça ne puisse pas donner l'occasion à certaines personnes de falsifier les preuves déjà recueillies et surtout de faire effacer les traces de certains faits, notamment à Saint-Cyr où il y a des fosses communes. Donc ça commence vraiment à me faire craindre.
L'inquiétude de ces avocats est aussi partagée par des ONG de défense des droits de l'homme. À cet effet, 4 ONG ont publié mardi dernier un communiqué intitulé « Les victimes du massacre des Kiloa privées de justice par une cour militaire congolaise ». Parmi ces ONG, Global Witness et RED, basées à Londres en Angleterre, pour ces ONG, le procès n'est pas conforme aux normes internationales relatives à l'équité des procès. À Kinshasa, évaluer la situation politique du pays et le parcours du mouvement de libération du Congo face aux enjeux politiques actuels et à venir sont là des objectifs de la convention politique du mouvement de libération du Congo ouverte ce vendredi. Cette convention réunit les élus et les membres représentant les organes dirigeants du MLC. Dans le discours d'ouverture, le secrétaire général du mouvement de libération du Congo a souligné que l'éloignement du pays de Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du MLC, fera également l'objet d'examen dans cette convention. François Mwamba, secrétaire général du MLC, donne des précisions quant au retour de ces derniers au pays. Il est au micro de René Capita.
On nous a dit que pour créer un climat de confiance, un climat favorable, il fallait que le sénateur Jean-Pierre Bemba puisse mettre de l'eau dans son vin et montrer sa volonté, c'est-à-dire que s'il revenait, quel serait donc son comportement et ses attitudes compte tenu de tout ce qu'on sait sur lesquels je ne reviens pas. Il l'a fait dans un entretien qu'il a eu avec M. Louis Michel, commissaire européen. Maintenant, la suite ne dépend pas que de Jean-Pierre Bemba, ne dépend pas que de Louis Michel. Je pense que le chef de l'État, qui a été donc approché à cette fait, je n'en doute pas, précisera un petit peu comment lui-même voit les choses, mais je ne suis pas son porte-parole.
Mais c'est encore quelque chose du gouvernement par rapport à son retour?
Rien qui concerne la République du Congo ne peut se faire par un camp ou un autre tout seul. S'agissant du retour du sénateur Jean-Pierre Bemba, président du MLC, il est clair qu'il ne va pas s'imposer dans un contexte où il faut tout de même que sa sécurité, y compris physique, soit garantie. Et donc par conséquent, c'est une matière à négociation.
Au cours de cette cérémonie d'ouverture, un message de Jean-Pierre Bemba Gombo a été lu, message dans lequel il invite les membres du MLC à la cohésion et à l'unité pour préparer les échéances politiques à venir. Dans le Katanga, inquiétude des autorités de Manono sur la situation sociale des démobilisés. Sur 350 éléments démobilisés, seule une dizaine a reçu depuis deux semaines le filet de sécurité. Cette situation a provoqué une tension parmi les bénéficiaires que les autorités s'efforcent de calmer. Elles demandent ces autorités donc à cet effet à la CONADER de faire diligence pour trouver une solution au problème. Expédite Mamba Mubi pour les détails.
Pour l'administrateur de territoire de Manono, la situation des ex-combattants constitue une bombe à retardement. Sur 351 démobilisés, explique l'administrateur Jean Mankoto, seuls 18 ex-combattants ont été payés depuis deux semaines par la commission CONADER CELPAY. Toujours selon notre source, 280 ex-combattants recensés en 2006 par l'équipe mobile intégrée n'ont pas touché leur filet de sécurité parce que, selon la commission de paye, aucun de ces ex-combattants ne disposait de macarons. La commission de paye est de ce fait retournée à Kalemi sans avoir réglé tous les litiges. Quant à la CONADER Kalemi, celle-ci vient de fermer ses portes. Elle est remplacée par une nouvelle unité qui s'appelle Unité d'exécution des projets DDR. Selon la division des affaires politiques de la MONUC Kalemi, les responsables de cette nouvelle unité n'ont souhaité faire aucune déclaration sur la question. Le temps, disent-ils, de s'imprégner des différents dossiers laissés par la CONADER. De Kalemi, Expedi Mabamoubi, Radio Okapi.
Au Kassai occidental, les ONG de défense des droits de l'homme s'insurgent contre la détention arbitraire par l'Agence nationale de renseignement des citoyens ayant commis des infractions de droit commun. Ces ONG l'ont fait savoir dans une déclaration cette semaine à Kananga. Elles sollicitent surtout une intervention urgente des autorités tant provinciales que nationales pour mettre fin à ce qu'elles appellent des détentions irrégulières. Mbujimayi signature ce jeudi d'un protocole d'accord entre le Kassai oriental et le Kassai occidental relatif à la sécurité aux frontières des deux provinces. Ce protocole vient d'être signé à l'issue d'une réunion bipartite tenue du mardi 17 au jeudi 19 juillet. Selon ce protocole, les conflits fonciers entre les deux provinces proviennent de la non-application des résolutions des PAP bipartites antérieures et à l'absence de vulgarisation des textes légaux portant création et limitation des deux entités au niveau des populations. Les détails avec Billy Ivan Lutumba.
Abordant les questions liées à la prévention des conflits, les représentants des deux provinces déplorent l'absence des moyens de déplacement et de communication pour les autorités politico-administratives. Dans l'objectif de mettre fin à la répétition de tous ces conflits fonciers, les deux parties conviennent d'envoyer dans les 15 jours prochains une commission mixte des deux provinces. Pour le gouverneur intérimaire du Kassai occidental, la date de la signature de ce protocole doit être considérée comme une journée mémorable de paix et d'inquiétude. Hubert Bingo.
Notre vœu le plus ardent au terme de cette bipartite est de voir et de vivre la plus cabulité des différentes options levées et coulées sous forme de recommandations. C'est seulement ça qui nous permettra de rencontrer les attentes de nos populations et justifier par surcroît les temps que nous venons de passer ensemble ici.
En réponse, Alphonse Ngoï Kassangi, gouverneur du Kassai oriental, a souligné que son espoir est de voir les populations des deux Kassai retrouver le calme et la concorde afin de favoriser le développement des deux provinces sœurs.
Nous sommes tous congolais et fiers de l'être. En plus, notre histoire commune a lié nos destins respectifs. Les limites administratives entre nos deux provinces ne peuvent pas freiner notre élan à faire du Grand Kassai un espace où il fait bon vivre.
On prépare à cette bipartite les membres des conseils de sécurité des deux provinces, les responsables d'entreprises publiques, ainsi que quelques responsables de l'administration publique. Billy Van Lutumba, Mbujimayi, Radio Okapi.
Inquiétude des responsables de la santé à l'Équateur, la propagation du poliovirus sauvage est préoccupante dans la province. 15 nouveaux cas enregistrés chez les enfants au cours des 6 derniers mois, indique l'inspection provinciale de la santé. Une déléguée de l'UNICEF mène d'ailleurs une mission d'évaluation en Mbandaka depuis mercredi dernier en prévision des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne est prévue du 2 au 4 août dans cette province. La mobilisation est totale pour réussir cette prochaine campagne de vaccination. 12h15 à Kinshasa, fin de cette édition d'information.